Chapitre 10e. Les Anglais en forêt. Pendant plusieurs jours, Martin Huma fut sans voir paraître le général. Il continuait cependant à aller dans la forêt, à courir à travers les rochers en quête de son sujet à tableau, mais le commandant Rimondin ne paraissait pas. « Peut-être, me dit-il, se trouve-t-il satisfait de sa sortie de la dernière fois ?» Et ayant laissé déborder son cœur et tonitruer sa haine de la peinture, n'a-t-il plus de raison de venir me voir opérer? Cependant, je remarquai que Philippe ne le quittait plus. Nous savons que Philippe était peintre aussi et non dépourvu de talent. Il fut donc depuis lors le compagnon assidu de Martin Huma. Il se posta à côté du roi des détectives. Il fit des études du même point de vue que lui. De temps en temps, Prosper venait se joindre à eux, mais Prosper, ne faisant pas de peinture, apportait un appareil de photographie, prenait quelques vues, puis s'asseyait sur le rocher, dans l'herbe, à côté de ses amis, et il avait l'air, là, de passer tranquillement son temps à écouter ou raconter des histoires, sans autre arrière-pensée. Pour moi, cependant, bien que Martin Huma n'en eût jamais soufflé mot, il était évident que le roi des détectives ne se faisait pas, à proprement parler, gardé par ses hommes, mais se tenait prêt à résister, à faire face à toute attaque soudaine, à toutes sortes de surprises. J'avais été frappé d'ailleurs du ton dont Martin Huma m'avait dit que le général lui paraissait être un singulier client. Et je me doutais que quelque événement sensationnel était proche. Cependant, une semaine passa. Deux semaines s'écoulèrent et rien ne se manifesta. Une fois ou deux, on vit passer à cheval, toujours suivi de son domestique, dans une allée assez lointaine, le fameux commandant Rimondin. Mais il ne s'arrêta pas. Il eut l'air même de ne pas voir les peintres, de ne pas les reconnaître sous leur grand parasol. Pourquoi cela? Pourquoi? Un jour que j'étais là, assis près d'eux, nous eûmes la visite d'un garde forestier. Il échangea quelques paroles avec nous, regarda les tableaux, puis s'éloigna. « Au revoir, » lui dit Martin Huma, « au revoir. » Martin Huma me fit savoir, un dernier samedi que j'étais venu le voir, que dans la semaine il avait eu également la visite d'un autre garde forestier, d'un charbonnier et enfin de touristes anglais. « Il faut croire, me dit-il en riant, que j'attire les amateurs, car je ne sache pas que mes confrères peintres reçoivent autant de visiteurs, autant d'admirateurs que moi. » Et comme il disait cela, je vis dans ses yeux passer un éclair que bien souvent j'avais vu briller et qui, malgré lui, trahissait l'intensité de sa pensée. Martin Huma ajouta, « Et malgré cette admiration que mon talent inspire dans la forêt, je n'ai pas encore vu acquéreur pour un de mes tableaux. C'est curieux. On ferait mieux de moins me féliciter de ma peinture et d'un peu plus l'acheter. » Crie de tous les peintres. « On pourrait même, on devrait, faudrait-il dire, en acheter à mon pauvre Philippe, qui lui, réellement, a beaucoup de talent et qui, comme moi, ne trouve pas acquéreur. » Puis Martin Huma roula une cigarette et il nous dit, chose extraordinaire et qui nous dépasse, que nous ne pourrions comprendre en vérité. Écoutez bien ceci, mon ami Courville, de toutes mes oreilles. Nous sommes deux peintres, Philippe et moi, qui ne portons pas notre nom sur notre chapeau, qui ne nous distinguons en somme par rien du tout pour attirer l'attention spécialement sur l'un de nous. C'est vrai. Nous peignons à peu près le même point de vue, et je dois dire que Philippe l'interprète infiniment mieux que moi, sans vouloir lui faire de compliments. Martin Huma arrêta d'un geste son lieutenant qui voulait protester, et il reprit. « du tout, mon ami. Je fais une constatation. Et je dis la chose exacte. Je suis votre chef, mais vous êtes mon maître. Ceci établi, je continue. Donc, Philippe, qui est beaucoup plus fort que moi, qui rend mieux le sujet, a moins de chance que moi auprès des amateurs de peinture en plein air. C'est ainsi que d'abord ce fameux commandant Rimondin, puis le garde forestier, voire aussi le charbonnier, et enfin cet Anglais et sa femme, jetèrent sur le tableau de Philippe, de même dimension que le mien, et autrement bien traité, un coup d'œil rapide et s'arrêtèrent longuement sur mon chef-d'œuvre. « C'est que, chef, dit Philippe, votre peinture leur plaît mieux que la mienne. » Martin Huma secoua la tête. « Non, mon ami, c'est que ces gens-là ne s'intéressent nullement à la peinture faite par moi, mais à moi qui fais cette peinture. » Je ne pus m'empêcher d'avoir un mouvement d'étonnement. Il n'échappa point à Martin Numa. Il me regarda du coin de l'œil et me dit en souriant « Voyons, mon cher Courville, quand vous habituerez-vous à ne pas sursauter comme ça? Nous ne sommes plus ici à l'amphithéâtre, mais en pleine forêt. Il ne s'agit pas de macabées mystérieux, ici, mais de pochades, d'études en plein air. » Et il reprit avec bonne humeur. « Donc, ces admirateurs de peinture s'intéressent beaucoup moins à l'œuvre qu'au peintre. Et je crois que c'est encore bien moins le peintre qui les préoccupe que Martin Numa, qui est lui-même peintre. » Il se fit un silence. Martin Numa, comme cela arrivait toujours dans les cas pareils, tira sa blague et roula une cigarette. Puis, l'ayant allumée, il reprit « Enfin, nous verrons ce que nous verrons, comme on dit à la foire, et ce que nous verrons, je l'espère, sera digne de notre attention. Encore un coup de vos ennemis? Pour le moment, la forêt est trop belle pour la quitter. Le temps est trop doux pour ne pas en profiter. Mais puisque notre réputation commence à s'établir dans la contrée, restons-y. Peut-être trouverons-nous à placer, Philippe ou moi, un de nos chefs-d'œuvre. » Puis on changea de conversation, on parla de toute autre chose que de peinture, de forêt de Fontainebleau et de visiteurs singuliers et de clients bizarres, d'anglais, de charbonniers et de gardes forestiers. Je me trouvais à quelques jours de là, encore étendu sur un rocher entre Martin Numa et Philippe, quand un touriste, jeune encore, bien taillé, solide, avec une forte moustache brune, une grosse casquette en drap, passa à quelque distance de nous. Ce touriste ne nous aperçut pas. Il contournait le rocher sur lequel nous nous trouvions et ne pouvait nous voir. Quand il fut à quelques pas plus loin, Martin Numa tout d'un coup se mit à crier. « Qui me donne une allumette ?» Philippe et moi, nous nous levâmes pour lui offrir une boîte de tison. Mais il eut l'air de ne pas voir notre mouvement car il se remit à peindre sans prendre une des boîtes que nous lui tendions. Cependant, le cri de Martin Numa était arrivé jusqu'aux oreilles du touriste qui passait non loin de nous, se retourna aussitôt, jeta les yeux de notre côté, nous regarda, puis reprit sa promenade et s'éloigna sous bois. Dans toute cette scène, rapide d'ailleurs et qui paraissait sans aucune importance, quelque chose m'avait frappé. D'abord, le cri soudain de Martin Numa pour demander une allumette, lui qui parlait à voix plutôt basse. Puis je remarquai aussi que Martin Numa, qui nous demanda du feu, n'avait pas la cigarette éteinte. Ensuite, qu'il n'enflamma pas d'allumette. Et enfin, qu'il ne prit même pas l'une des boîtes que nous lui tendions. Je remarquai aussi le coup d'œil singulier que ce promeneur lança vers nous en entendant le cri du peintre fumeur. Cette fois, je ne fis pas de mouvement brusque, je n'eus aucun soubresaut et je fus maître de mes nerfs. Je me contentai de remarquer, d'observer, et je restai là sans bouger. Cela ne passa pas encore inaperçu, car Martin Numa, qui cependant n'avait pas une seule fois tourné la tête de mon côté, qui n'avait pas cessé de peindre, de se tenir devant sa toile, me dit doucement « Mon cher Courville, c'est très bien. Vous n'avez pas eu d'émotion. Vous commencez à vous former. Je vous félicite. » Vraiment, cet homme était infernal. Et en riant, je lui dis « Ah ça, mon cher, vous avez donc des yeux dans le dos que vous puissiez voir ce qui se passe derrière vous sans tourner la tête ?» Martin Numa me répondit « En tant que peintre, mon cher, il faut ouvrir les yeux qui voient clair, qui voient très bien et qui savent discerner ce qu'il est nécessaire de ne pas laisser échapper. Et en tant que ce que je suis, je dois avoir en outre des oreilles pour entendre le moindre bruit. Il faut que je puisse me rendre compte avec mes yeux de peintre et mes oreilles de détective de tout ce qui se passe autour de moi et dont je dois tirer mon profit. » Il ajouta presque aussitôt « Ainsi, je vous annonce la venue de deux nouveaux touristes. » En effet, peut-être 5 minutes après, venant cette fois en sens inverse du premier promeneur, nous vîmes paraître, de l'autre côté du rocher, deux touristes qui marchaient d'un pas tranquille en admirant la beauté de la nature. Ils jetèrent de notre côté, du côté plutôt du rocher sur lequel nous nous trouvions, leur regard et se mirent à le contempler. Martin Numa nous dit « Inutile de vous demander du feu, on nous a vus. » Et il se remit à peindre. Une demi-heure après, nous entendîmes de nouveau les branches sèches craquer sous les pas de deux promeneurs. « Voilà l'anglais et la miss !» Martin Numa se retourna vivement et regarda les nouveaux arrivants. Il se contenta de leur jeter un coup d'œil et il se remit aussitôt à son travail. Les Anglais eurent l'air de découvrir tout à coup les peintres. Ils firent un crochet, quittèrent la route sur laquelle ils s'avançaient et montèrent jusqu'au rocher sur le plateau duquel nous nous tenions, Martin Numa, Philippe et moi. Dans un anglais parfaitement pur, l'homme parlait à la femme. Celle-ci se contentait pour le moment d'écouter à grands pas, posait ses énormes pieds de bloc en bloc, d'aspérité en aspérité, pour arriver jusqu'à nous. L'anglais, sa pipe aux dents, s'arrêta derrière Martin Numa. La femme s'arrêta sur la même ligne à côté de lui. Raide, immobile, il regardait le tableau de Philippe et de Martin Numa. L'homme pouvait bien avoir dans les 50 ans. Il était grand, osseux, rudement charpenté. La femme était à peu près aussi grande que lui et taillée de la même façon. Elle portait, sous un chapeau de feutre, les cheveux roux tirés bas sur le front. Elle était rouge de teint, les sourcils rouges, broussailleux, avait le nez assez gros et relevé à la pointe. La bouche, presque sans lèvres, retombait de ses narines par deux lignes de rides formant fer à cheval. La peau était rude, tachetée, les yeux bridés et fatigués. On ne savait quel âge lui donner. Vraiment, elle était très laide. Était-ce la fille ou la femme de cet Anglais? On ne pouvait le dire. Elle regardait, avançant la tête, clignotant les yeux un peu myopes. L'homme, entre deux bouffées de pipe, baragouinait quelques mots, rapidement. L'Anglais se contentait d'incliner la tête pour toute réponse et de dire « Yes, yes ». Sa voix était d'une tonalité plutôt grave, un peu sourde. Elle n'avait rien qui rappelât la douceur d'une voix de femme. C'était l'organe d'une matrone. Un timbre de rogom qu'il était permis de croire dénaturé par de fréquentes libations de cocktails, de gin ou de whisky. De même qu'on pouvait attribuer ce teint de brique mal cuite à l'acné ou à la coupe rose, dont malheureusement sont souvent atteintes celles qui furent autrefois de jolies et fraîches misses anglaises. Après un moment de contemplation, l'homme, cessant de parler anglais à sa compagne, s'avisa de parler en français avec cet accent particulier et dans ce sabir qui nous vient d'outre-Manche. S'adressant à Martin Numa, il dit « Voulez-vous vendre à moi ce tableau ?» Martin Numa se retourna et dit « Il n'est pas fini. » Imperturbable, l'anglais répondit « C'est bon. Je attendais que le tableau, il est fini. » Il retomba dans son immobilité, se mit à regarder Martin Numa tout en continuant de fumer sa pipe. L'anglaise, aux cheveux cramoisis, au teint fleuri, campée sur ses gros pieds, appuyée à un bâton, recourbée d'excursionniste, immobile, elle aussi, regardait avec la même placidité. Martin Numa s'était remis à son travail. Puis, au bout d'un moment, faisant semblant de se rappeler que les Anglais le regardaient, se tourna vers eux. « Vous attendez le tableau ? » demanda-t-il. « Yes, je attends le tableau. »« Vous y tenez beaucoup ?»« J'y tenais beaucoup, extrêmement beaucoup. »« Pourquoi ça ?» Parce que je admirais le talent de vos dernièrement et que ma femme et moi, nous aimons beaucoup la peinture française. Nous aimons aussi la forêt de Fontainebleau. Et nous voulons remporter chez nous cet souvenir agréable. Mais, insista Martin Numa, ce n'est qu'une étude, une pochade. Et vraiment, ça ne vaut pas la peine d'être gardé comme souvenir. Oui, oui, cet souvenir, il nous plaît beaucoup à mon femme et à moi, et je paye ce que vous demandez. « Dans ce cas, répondit Martin Numa, je ne demande pas mieux de vous être agréable, mais je ne puis, en conscience, vous donner ce tableau pour deux raisons que vous allez comprendre. J'achetais quand même. D'abord, j'ai besoin de cette étude pour un grand tableau qui doit paraître au salon. C'est un document qui m'est très précieux, et je ne puis m'en séparer quel que soit le prix que vous devriez m'offrir. Je paierai très bien. Secondement, insista Martin Numa, « je ne puis, pour ma conscience d'artiste, vous donner un tableau que je considère comme indigne de ma signature. Nous sommes désolés, mon femme et moi. Cependant, si vous voulez, je commande à vous un nouveau tableau de ce point-ci, de cette panorama que vous allez faire exprès pour nous. » Martin Numa répondit. « Cependant, monsieur, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Vous n'avez nulle conscience de ma valeur artistique. Par conséquent, un tableau de moi n'a rien qui vous intéresse en lui-même, puisque vous voulez simplement un souvenir de la forêt. Voici mon ami qui a plus de réputation que moi, qui était mentionné au salon, qui aura prochainement sa médaille, dont le tableau est exactement le même que le mien. Vous y trouverez les mêmes souvenirs de la forêt de Fontainebleau. Pourquoi ne lui achetez-vous pas son œuvre ? » L'Anglais tressaillit et répondit : « J'achetais aussi le tableau de votre ami. » Puis il reprit, « Mais je tenais beaucoup à voir un tableau de vous. » Martin Numa répliqua, « Dans ce cas, c'est me faire un grand compliment et je ne puis que vous remercier. Non, ce n'est pas la peine. Mais je dois vous dire et vous répéter, il m'est impossible de vous donner le tableau que je suis en train de faire. C'était vraiment dommage. Je puis cependant m'engager à vous en faire un exprès pour vous, du même point de vue. Mais cela me demandera plusieurs jours et cela vous coûtera assez cher, car je n'aime pas faire deux fois le même sujet. » Imperturbable, l'anglais dit alors, « Je vous ai dit que je payais bien le prix que vous demandez. Eh bien, nous nous entendrons. Ainsi donc, cette étude, je vais la finir aujourd'hui, et d'ici quelques jours, je me remettrai à faire une étude pour vous, prise de ce rocher. « Quel jour ?» demanda l'anglais avec insistance. « Mon Dieu, dans 2-3 jours ?»« Combien de temps vous faut-il pour le faire ?»« 2-3 séances environ ?»« C'est très bien, c'est entendu. Voulez-vous un engagement avec moi ? Voulez-vous une avance, un acompte sur le prix du tableau ?» L'œil de Martin Numa à cette proposition se brida quelque peu. Je pouvais le voir, moi qui maintenant me trouvais à côté de lui, et je crus lire dans ce froncement des sourcils et des paupières une ironie intense. Martin Numa très simplement répondit à l'anglais. En France, nous avons un proverbe qui dit « Les bons comptes font les bons amis. Vous allez d'abord payer l'étude de mon camarade, elle vaut 2 000 francs. Puis, vous me donnerez 1 000 francs d'acompte pour l'étude que je vais faire pour vous et qui vous coûtera 5 000 francs. » Je regardais l'anglais pendant que Martin Numa disait cela tout en continuant à peindre. Et je vis que la figure impassible jusque-là du sujet britannique eut une légère grimace. En ce moment, je pensais, il trouve que le souvenir lui coûte cher, que la peinture française qu'il aime tant se paye très bien. Mais il dit à Martin Numa qui continuait de ne pas regarder, « C'est entendu, je vais vous payer les 2 000 francs de l'étude de votre ami, et les 1 000 francs pour mon étude que vous allez commencer ces jours-ci. » Il tira de sa poche un carnet et ajouta, « Je vais vous faire un chèque sur une banque où j'ai des fonds, parce que généralement on ne se promène pas dans la forêt avec des banknotes plein les poches. » Martin Numa, tout en continuant de peindre, comme s'il n'avait pas de temps à perdre, l'interrompit. « Ne vous donnez pas cette peine d'écrire un chèque. Nous n'avons pas l'habitude dans les arts de nous servir de ces papiers. Pourquoi ? Les tableaux se payent aux artistes en argent, en billets de banque. Nous n'entendons rien au trafic des chèques. Et sans vouloir vous faire offense, puisque je ne vous connais pas, veuillez ne pas prendre pour désobligeante cette insistance que je mets à exiger le paiement en billets de banque. Demain, par exemple, nous serons ici, mon ami et moi, avec nos mêmes études. Ici, demain, apportez 3 billets de 1 000 francs. Vous en donnerez 2 à mon ami, vous en réserverez 1 pour moi, et vous emporterez la toile de mon camarade, avec la promesse que j'en ferai une pour vous. » L'anglais dit, « C'est bon. Demain, je reviens avec mon femme. Ici, je vous apporte l'argent et ça ira comme ça. Très bien. » « Entendu, » fit Martin Numa. « À demain. » Les Anglais se retirèrent, l'homme marchant devant, la femme lui emboîtant le pas. Quelques instants après, ils reprenaient la route qu'ils avaient quittée pour venir jusqu'à nous et ils s'éloignaient assez rapidement. Mais je vis passer derrière eux, sur cette même route, ce promeneur qui marchait à quelques pas de distance de notre rocher au moment où Martin Numa éprouva le besoin de réclamer à haute voix une allumette, bien que sa cigarette ne fût pas éteinte.